Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour méditer ensemble sur les versets 1 à 6 de la Sainte Sourate Bayana. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة صدق الله العلي العظيم.
Ceux les gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, ne cesseront pas jusqu'à ce que leur vienne la preuve. Un messager de la part de Dieu récite des feuilles purifiées, où sont des prescriptions droites. Et à ceux qui le livre a été donné, ne se sont divisés qu'après que la preuve leur fut venue. Il ne leur a été commandé, cependant, que d'adorer Dieu en purifiant pour lui la religion en sincère, et d'établir l'office, et d'acquitter l'impôt. Et voilà la religion de droiture. Oui, ceux des gens du livre qui m'écroient, ainsi que les faiseurs de Dieu, au feu de la géhenne, pour y demeurer éternellement. De toute la création, ce sont eux les pires.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Mesdames, Messieurs, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 8 juillet 2022. Nous allons vous présenter notre bulletin d'information qui sera suivi d'un commentaire politique. Restez avec nous. Dans un message à l'occasion du pèlerinage annuel du Hajj, le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a appelé à l'unité entre les musulmans. Le ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste contre l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe. Pékin a critiqué les nouvelles sanctions américaines contre l'industrie pétrolière iranienne, les entreprises chinoises et émiraties, sous prétexte d'aider à vendre du pétrole iranien. C'était les principaux titres de l'actualité. En voici les détails. Le leader de la révolution islamique, l'ayatollah Sayyid Ali Khamenei, a émis un message sur le pèlerinage annuel du Hajj, appelant à l'unité entre les musulmans. Le leader a déclaré que l'unité et la spiritualité constituaient les fondements de base du Hajj, ajoutant qu'elle conduisait les nations islamiques vers les sommets de l'honneur et du bonheur. Il a affirmé que les ennemis s'efforçaient depuis longtemps de semer la discorde entre les musulmans en profitant des différences de langage et de race entre ces derniers. L'ayatollah Khamenei a noté que les ennemis essayaient également depuis des décennies d'affaiblir la spiritualité chez les nations musulmanes en promouvant un mode de vie occidental. Cependant, a-t-il ajouté, le monde islamique est aujourd'hui prêt à déjouer de tels complots. C'est parce que les musulmans sont plus conscients de la grande valeur de leur religion et que le réveil islamique a renforcé la résistance parmi les nations musulmanes. L'ayatollah Khamenei a noté qu'une telle résistance est désormais observée en Palestine, au Liban et au Yémen. Rappelons en passant que le pèlerinage du Hajj de cette année est le plus important depuis le début de la pandémie du Covid. 1 million de musulmans, dont 850 000 de l'extérieur de l'Arabie saoudite, participent au pèlerinage annuel. Le Hajj est l'un des plus grands rassemblements religieux annuels au monde et c'est l'un des principaux piliers de l'islam. On vous lisait également en titre, le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères a condamné l'attaque terroriste contre l'ancien premier ministre du Japon, Shinzo Abe, et a déclaré, dit, en tant que pays victime du terrorisme qui a perdu de grands dirigeants, nous suivons de près et avec inquiétude l'actualité de l'ancien premier ministre du Japon. La République islamique d'Iran condamne fermement cet acte terroriste, a-t-il ajouté. Suite à l'attaque terroriste contre l'ancien premier ministre japonais, l'ambassade de la République islamique d'Iran dans ce pays a réagi à cette action en publiant un tweet disant « Nous condamnons l'attaque terroriste contre l'ancien premier ministre japonais ». Shinzo Abe est décédé à l'hôpital vendredi selon les médias locaux, quelques heures après avoir été blessé par balle en plein meeting électoral, un attentat qui a suscité une vive émotion au Japon et à l'étranger. Citant un haut responsable du Parti libéral-démocrate au pouvoir au Japon, la chaîne de télévision publique NHK a déclaré que l'ancien Premier ministre Abe, âgé de 67 ans, était mort à l'hôpital à Kajihara, dans le département de Nara, où il avait été transféré après l'attaque. La chaîne NHK et l'agence de presse Kyodo précisent également que l'ancien chef de l'exécutif prononçait un discours en fin de matinée près d'une gare à Nara, dans l'ouest du Japon, lors d'un rassemblement de campagne électorale en vue des élections sénatoriales de dimanche, lorsque des coups de feu ont été entendus. C'est un acte barbare en pleine campagne électorale qui est la base de la démocratie et c'est absolument impardonnable, a déclaré le premier ministre japonais Fumio Kishida lors d'une conférence de presse en début d'après-midi, avant que le décès de M. Abe ne soit confirmé. Un homme d'une quarantaine d'années a été désarmé et arrêté pour tentative de meurtre, selon la NHK, citant des sources policières. Selon plusieurs médias locaux, le suspect serait un Japonais de 41 ans, ayant par le passé appartenu à la force maritime d'autodéfense japonaise, la marine nippone. L'Iran a rejeté les affirmations du gouvernement britannique concernant la saisie d'une cargaison de missiles iraniens à destination du Yémen. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères a qualifié les affirmations de Londres d'infondées et d'obsolètes. Nasser Kanani souligne que c'est le Royaume-Uni qui continue de fournir à la coalition dirigée par l'Arabie saoudite des armes de pointe à utiliser contre les Yéménites sans défense. Kanani a indiqué que la Grande-Bretagne avait jusqu'à présent vendu environ 8 milliards de livres d'armes avancées à Riyad et à certains de ses alliés depuis le début de leur guerre contre le Yémen. Il a ajouté que la Grande-Bretagne savait bien que ces armes sont utilisées contre des civils et des infrastructures yéménites, notant que le Royaume-Uni manquait de qualifications morales pour porter des accusations contre l'Iran, alors que les ventes d'armes de Londres prolongeaient la guerre au Yémen. On vous lisait aussi en titre, le ministère chinois des Affaires étrangères a critiqué les nouvelles sanctions américaines contre l'industrie pétrolière iranienne, les entreprises chinoises et émiraties sous prétexte d'aider à vendre du pétrole iranien. Le ministère chinois des Affaires étrangères a souligné que le commerce rationnel et la coopération légale de la communauté internationale avec l'Iran devaient être respectés. Le département du Trésor des États-Unis a imposé mercredi de nouvelles sanctions contre l'industrie de pétrole iranien, une décision considérée comme une tentative de faire valoir ses exigences en exerçant une pression sur Téhéran lors des pourparlers sur la relance de l'accord nucléaire iranien de 2015, JCPOA. Les mesures interviennent malgré le fait que l'administration Biden affirme qu'elle poursuit la diplomatie envers l'Iran. L'administration Biden a imposé ces sanctions alors que les responsables américains ont reconnu à plusieurs reprises l'échec des politiques dites de pression maximale de l'administration Trump. Or, politiciens américains, tant démocrates que républicains, sont tellement accros aux sanctions qu'ils utilisent toujours comme le levier de pression et des sanctions pour atteindre leur objectif. Les mesures annoncées mercredi ont été imposées à plusieurs personnes et entreprises basées en Iran, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong. Les États-Unis les ont accusés d'avoir aidé à la livraison et la vente de centaines de millions de dollars de pétrole et de produits pétrochimiques iraniens en Asie de l'Est. L'Iran critique le bilan des États-Unis en matière de droits de l'homme, affirmant que le pays a commis les plus grands crimes de l'histoire contre l'humanité. Les commentaires ont été faits par le secrétaire du Haut Conseil iranien des droits de l'homme, Kazem Gharibabadi. Il a rappelé que la guerre américaine contre l'Irak avait entraîné la mort de plus de 2 millions d'innocents, dont un demi-million d'enfants. Il a déclaré que les bombes larguées par les drones américains dans sept pays avaient tué plus de 48 000 personnes. Selon ce responsable iranien, Washington se présente comme le porte-drapeau et le revendicateur des droits de l'homme, mais a établi 250 bases militaires dans plus de 40 pays du monde et a essayé de présenter l'Iran comme une menace pour l'Amérique. Khalid Babadi a également souligné les violations des droits de l'homme à l'intérieur des États-Unis. Il a noté que chaque année, 4 000 personnes meurent pendant leur incarcération aux États-Unis. Le responsable iranien a par ailleurs critiqué la discrimination qui prévaut contre les Afro-Américains aux États-Unis, faisant remarquer qu'ils sont généralement considérés comme des criminels dans ce pays. Et pour fermer le journal, sachez que le gouvernement turc, connu pour avoir toujours joué sur plusieurs tableaux comme le prévoyaient les analystes, a fini par faire marche arrière dans l'affaire du navire battant pavillon russe qu'il avait détourné en mer Noire pour en profiter sur le plan médiatique. Le navire battant pavillon russe, Zebek Guli, dit aussi Jibek Joli, peut quitter le port turc aujourd'hui et il n'a pas été initialement saisi jusqu'à ce qu'il soit libéré. Et il n'a pas été question de confisquer ses marchandises et cela est une campagne de désinformation, c'est ce qu'a affirmé une source des douanes turques à Sputnik. Le directeur adjoint du département de l'information et de la presse du ministère russe des Affaires étrangères, Alexis Zaitsev, a déclaré plus tôt qu'il n'était pas question de saisie en Turquie du navire Jibek Joli, car il se trouve sur la route du port et est soumis aux procédures normales. Le navire n'a pas été retenu jusqu'à ce que nous le laissions partir. Il y avait une procédure normale selon les besoins. Il peut quitter le port turc aujourd'hui ou quand il le souhaite. Ça dépend de sa décision, a déclaré la source à Sputnik. Selon cette source, il n'y a pas eu de confiscation de ses biens. Afin de confisquer la cargaison du navire, une certaine procédure légale est nécessaire, a expliqué la source. Un responsable turc et la société d'exploitation du port ont confirmé le 4 juillet que les autorités avaient arrêté un cargo battant pavillon russe et enquêté sur les allégations de l'Ukraine selon lesquelles il transportait du grain volé. Sur demande, le navire nommé Jibek Joli a été arrêté au large de la mer Noire, a déclaré un haut responsable turc. Les allégations font l'objet d'une enquête approfondie. Il n'est pas écrit sur le grain à qui il appartient, a-t-il dit. Le 3 juillet, Vassil Bodnar, ambassadeur d'Ukraine en Turquie, a déclaré que le Jibek Joli était détenu par les autorités douanières turques. C'était le journal. Merci à vous de l'avoir suivi et restez à l'écoute de notre commentaire politique. Sanctions américaines, la Chine s'en moque. C'est de quoi on va parler dans notre commentaire politique d'aujourd'hui. Les États-Unis ont imposé mercredi 6 juillet des sanctions à un réseau d'entreprises chinoises, émiraties et autres qu'ils accusent d'aider à livrer et à vendre des produits pétroliers et pétrochimiques iraniens en Asie de l'Est. En réaction à cette décision de Washington, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, s'est exprimé en ces termes. La Chine a toujours été fermement opposée aux sanctions unilatérales illégales et injustifiables et à la soi-disant juridiction au bras long des États-Unis. Nous exhortons la partie américaine à abandonner la mauvaise pratique consistant à recourir à des sanctions à chaque instant et à contribuer positivement aux négociations sur la reprise du respect du plan global d'action commun, JCPOA, ou l'accord sur le nucléaire iranien de 2015. La communauté internationale, y compris la Chine, a mené une coopération normale avec l'Iran dans le cadre du droit international. Ceci est raisonnable et légal, sans préjudice pour un tiers et mérite d'être respecté et protégé. Les États-Unis désignent 15 personnes et entités qui se sont livrées à la vente et à l'exportation de pétrole, de produits pétroliers et de produits pétrochimiques iraniens. Ces entités, situées en Iran, au Vietnam, à Singapour, aux Émirats arabes unis et à Hong Kong, ont soutenu le commerce iranien de l'énergie, générant ainsi des millions de dollars de revenus. En outre, le département du Trésor désigne 8 entités et 2 personnes situées en Iran, à Hong Kong et aux Émirats arabes unis, qui soutiennent la participation continue de Naftiran Intertrade Company, Iran Petrochemical Company, Persian Gulf Petrochemical Industry Commercial Company, Trillions et Bahrain Oil dans la vente de pétrole et de produits pétroliers iraniens à l'étranger. Les sanctions stériles US se multiplient alors même que l'Iran continue à élargir ses ventes de pétrole. Un rapport publié par l'Organisation des pays exportateurs de pétrole OPEP indique que l'Iran a réalisé plus de 25 milliards de dollars de revenus grâce aux exportations de pétrole en 2021. L'OPEP a rapporté 560 milliards de dollars de revenus provenant des ventes de pétrole en 2021 dans un rapport annuel qui montre une augmentation de 77% par rapport à l'an dernier. Les revenus de 13 membres de l'OPEP provenant des exportations de pétrole s'élevaient à 317 milliards de dollars en 2020. L'Iran a également gagné plus de 25 313 milliards de dollars grâce aux ventes de pétrole en 2021. Les revenus de l'Iran provenant des ventes de pétrole en 2021 ont triplé par rapport à l'année précédente. L'Iran a gagné plus de 7 914 milliards de dollars de revenus grâce aux exportations de pétrole en 2020.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce mercredi 6 juillet 2022. Le mouvement de la résistance islamique du Liban, le Hezbollah, a affirmé que son message avait été délivré à Israël après avoir lancé 3 drones sur un champ de gaz naturel en Méditerranée au cœur d'un litige avec le régime d'occupation israélien. Le Hezbollah a précisé que les drones envoyés sur le champ gazier de Karish avaient accompli leur mission de reconnaissance. Le régime de Tel Aviv avait déclaré qu'il prévoyait de lancer en effet des opérations d'extraction dans la région, et ceci malgré les avertissements du Hezbollah et des hauts responsables libanais qui ne resteront pas les bras croisés face à cette démarche israélienne. En effet, pour le Hezbollah, ce projet israélien s'inscrit dans le cadre de cette tentative de piller les ressources maritimes et les richesses naturelles et nationales du Liban. Le Hezbollah a affirmé qu'il était prêt en effet à prendre des mesures, y compris militaires, contre les opérations israéliennes de forage de gaz sur le champ de Karish. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons revenir sur les tout derniers développements, notamment cette mission de reconnaissance accomplie par les drones du Hezbollah et bien entendu son impact sur les négociations pour la délimitation des frontières maritimes. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
À Tel Aviv, c'est l'horreur mêlée à la cacophonie. 48 heures après que le premier SM de trois drones Mersa du Hezbollah a fait une descente en plein bouclier aéronaval Israël-US-OTAN autour de Karech, ce au risque de réduire en miettes des milliards de dollars que de contrats que les sionistes comptent faire signer aux Golfiens, à l'effet de leur dresser une vraie fosse DCA intégrée à l'image de ces centaines de patriotes d'OTADE et de dômes de fer interconnectés aux quatre coins du Moyen-Orient qui font tout sauf la tâche d'interception et d'abattage de missiles et de drones pour laquelle ils ont été conçus. La presse sioniste jette le pavé dans la mare en confirmant le second échec en date de la lotte de combat d'Israël face aux drones du Hezbollah. Les F-16 israéliens se sont montrés incapables ce 2 juillet d'abattre les trois drones Hezbollahi à Karech, bien que l'unité de surveillance de l'armée de l'air ait réussi à en intercepter l'apparition et à émettre l'ordre de destruction à deux chasseurs du 109e escadron qui, parti de la base aérienne de Ramat David, n'ont réussi à battre que l'un des trois UAV sans pouvoir en faire autant pour les deux restants ayant du mal à poursuivre le deuxième drone et le missile l'a raté. Le troisième drone volait à basse altitude, ce qui rendait difficile son interception. Voici arrivé à leur apogée. Les capacités dissuasives du Hezbollah qui amorçaient en 2000 ont entraîné la débandade des militaires israéliens dans le sud du Liban puis mis fin à la guerre de 33 jours en 2006 sur fond de l'effondrement de l'armée de terre israélienne mais aussi sa marine avec un SAR 6 pulvérisé par un missile de croisière Nour et qui vient de remporter la bataille du ciel. Car ce qui préoccupe le régime sioniste n'est pas tant l'infiltration des drones du Hezbollah et leur survol du champ gazier de Karech que leur succès a mené à terme leur opération de reconnaissance sous les yeux aveuglés des pilotes israéliens. À cet égard, aucun des agissements maritimes du régime sioniste dans les eaux territoriales du Liban ne restera discret et donc sans réponse. Ou dit autrement, le Hezbollah, outre d'être une puissance balistique, est une puissance aérienne asymétrique capable de surveiller, de cibler et détruire des cibles terrestres, navales et même aériennes si on se souvient de l'hélico Atalet pulvérisé le 3 janvier. Tout cela est inclus le brave communiqué du Hezbollah émis après l'opération réussie au-dessus du champ gazier de Karech. L'opération de reconnaissance s'est achevée avec succès et le message souhaité a été transmis.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter nos invités pour cette émission. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Damas avec Maître Arnaud Develet, juriste international et analyste politique. Maître Develet, bonjour et merci d'être en ligne avec nous.
Oui, bonjour à vous, bonjour aux téléspectateurs et bonjour à Monsieur Michel, toujours un plaisir.
Maître Develet, alors le Hezbollah a annoncé récemment dans un communiqué que la mission avait été accomplie et le message avait été délivré après avoir lancé trois drones de reconnaissance sur les zones offshore contestées en Méditerranée. Quel est le message de cette opération de reconnaissance du Hezbollah, Maître Develet?
Écoutez, le message, il est simple, c'est qu'après toutes les tentatives de négociation fondées sur des positions complètement différentes les unes des autres, et ce depuis 2007, puisque bon, rappelons pour nos auditeurs que le cœur du litige, en fait, est la démarcation maritime en termes des frontières. Cette détermination est cruciale dans le sens où elle permettrait ensuite aux uns et aux autres de procéder à l'exploitation des gisements gaziers offshore. On a en présence de deux positions, une qui la frontière maritime, et ça c'est la position israélienne, ce qui s'appelle la ligne 29, qui avait visiblement fait l'objet de négociations vers 2007 avec le gouvernement libanais de l'époque. Des papiers avaient été déposés à l'ONU pour entériner, si je puis dire, cet accord. Dans quelles conditions cet accord a été conclu, ça reste à déterminer. Toujours est-il que les Israéliens s'arc-boutent sur cette position. En 2011, il y a eu une modification du gouvernement libanais sur cette question avec l'introduction de la ligne off, qui était une forme de solution intermédiaire entre la ligne 29 et la ligne 23, qui est maintenant la position adoptée par le gouvernement libanais actuel depuis 2020. La ligne 29, elle, fait référence aux frontières maritimes telles qu'elles sont établies en droit coutumier, et ce qui fait que les deux parties sont en fait très très loin les unes des autres sur cette question. Toujours est-il que la position du gouvernement libanais sur ce problème, ce dossier, laisse entendre que quelque part ne reconnaît pas l'intégrité, ou si je puis dire, les conditions, les circonstances dans lesquelles les décisions qui avaient été prises en 2007 ont eu lieu. Et par défaut, elles se répercutent donc sur le droit maritime coutumier, qui normalement laisserait entendre que la ligne serait une ligne droite qui partirait du point le plus méridional du Liban dans une ligne parfaitement perpendiculaire. C'est d'ailleurs la position qui avait été adoptée et entendue sur une question similaire entre la Syrie et le Liban, et là il n'y a eu aucun problème. Donc le Hezbollah, prenant compte de tous ces paramètres, s'aperçoit en plus de ça que les États-Unis ont envoyé un négociateur qui est plus en fait un espèce de viceroy, hein, un viceroy qui entend en fait plus ou moins épouser la position israélienne en essayant de l'agrémenter de promesses illusoires. Et le Hezbollah a très bien vu à travers ce genre de manœuvre de quoi il en relevait. Et il a décidé de siffler la fin de la récréation lorsque les Israéliens, tels qu'on les connaît, décident unilatéralement de changer, si je puis dire, de bouger les postes, les poteaux des buts, en envoyant des navires et des plateformes mobiles pour commencer en fait l'exploitation. Parce que je pense que des contrats ont été signés entre l'entité sioniste et certaines compagnies occidentale qui laisse entendre que voilà, il faut que cette situation soit réglée, sinon les contrats ne pourront pas être mis en œuvre. Donc le Hezbollah dit non, c'est pas comme ça que ça marche. En tant que garant de la souveraineté par les armes de la résistance de la souveraineté libanaise, nous tenons à vous faire comprendre que nous ne resterons pas les bras ballants pendant que vous procédez à l'exploitation du gaz qui ne vous appartient pas, tout simplement.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, Maître Develet. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Michel, est-ce que vous nous entendez? Allô? Ah, visiblement, nous avons un souci de liaison avec Monsieur Michel. Donc, on va continuer avec Maître Develet en attendant que notre contact soit rétabli avec Monsieur Michel.
Je suis là, Maître.
Alors, vous nous entendez, M. Michel? Vous êtes avec nous?
Oui, je vous entends,
très
mais
bien.
J'étais dans le vide depuis plus d'un quart d'heure.
Merci, je vous remercie infiniment. Merci infiniment, M. Michel, d'avoir accepté notre invitation. Maître Develet, depuis Damas, il a expliqué que, alors par le lancement des drones de reconnaissance sur le champ contesté de Karish, le Hezbollah a exposé sa capacité, en effet, de riposte, sa capacité opérationnelle. Et même selon les médias israéliens, le Hezbollah est aujourd'hui capable de faire autrement. Est-ce que cela veut dire qu'il faudrait s'attendre à un affrontement militaire?
Avant de vous répondre, je voudrais dire un mot d'hommage pour le professeur Dortiguier qui nous a quittés il y a deux jours. C'était un grand ami de l'Iran et de la cause palestinienne et j'avais grand plaisir à débattre avec lui très souvent. Il nous a quittés, c'est une grande perte pour tout le monde.
Ouais.
Maintenant, en réponse à votre question, on constate aujourd'hui un effondrement de la DCA et de l'aviation israélienne. Aujourd'hui, les drones du Hezbollah bénéficie d'une supériorité technologique due à l'intelligence artificielle et à la supériorité balistique qui rivalise avec les Israéliens, il y a maintenant une supériorité technologique. C'est une nouvelle facette de la guerre asymétrique que les gens de l'OTAN appellent la guerre hybride et qui avait été inventée par le Hezbollah au Liban en 2010. Aujourd'hui, évidemment, les technologies israéliennes, la supériorité de l'aviation, les systèmes d'antimissiles, dôme de fer, etc., tout ce qui est vanté dans le Proche-Orient, c'est en train d'être battu en brèche par l'axe de la résistance.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, s'il vous plaît, M. Michel. Maître Develle, donc, aujourd'hui, par sa capacité de guerre asymétrique, hybride, comme disait M. Michel, le Hezbollah est devenu une armée réelle. Alors, la question qui se pose aujourd'hui, qu'est-ce que cela va changer dans l'équation de dissuasion avec le régime israélien?
Mais écoutez, ça va en tout cas faire réfléchir les Israéliens, pour peu qu'ils aient des gens rationnels au niveau des décisions qui sont prises. De toute évidence, et on l'a vu déjà avec la résistance yéménite, cette tactique de guerre hybride, de UAV et de drones qui volent à basse altitude en essaim sont extrêmement précis, avec une marge d'erreur de peut-être 5 à 10 mètres. On a vu les résultats de cette tactique lors de l'organisation du Grand Prix de Formule 1 à Jeddah il y a quelque temps, au mois de mars dernier. Et on a vu qu'effectivement, les dégâts peuvent être absolument considérables. Donc, dans ce contexte-là, il sera aisément facile à accomplir pour le Hezbollah de réduire en cendres ses plateformes mobiles et réétablir dans ce contexte-là l'équation telle qu'elle se doit. J'ajouterais à cela que les Israéliens ont été tentés d'utiliser les F-35 Nasir ou Nadir, modifiés en tout cas, pour procéder à ces opérations de reconnaissance. Et visiblement, les F-35 ne marchent pas du tout. Ils ont été obligés de revenir au modèle F-16. Donc, ce qui laisse entendre que sur un plan technologique, effectivement, les Israéliens sont complètement dépassés. Et surtout au niveau de la tactique, de la stratégie, la guerre asymétrique telle que menée par la résistance a rééquilibré les débats et il faut maintenant que, si je puis dire, les négociateurs prennent en compte les intérêts bien compris du Liban dans cette question, parce que le Liban a besoin de pouvoir avoir accès à ses ressources pour pouvoir commencer à sortir la tête de l'eau de cette situation économique qui n'est politiquement pas viable, quoi qu'on puisse en dire. Et d'ailleurs, j'ajouterais que tous les partis libanais sont unifiés sur la question des réserves gazières du Liban. Et de l'autre, les Israéliens aimeraient bien pouvoir commencer à exploiter au large des côtes, pour la simple et bonne raison qu'ils ont eux-mêmes des engagements visiblement avec d'autres pays du Golfe en vue de servir de substitut pour la part de marché qui s'est libérée suite à l'imposition des sanctions sur l'économie, enfin, sur le pétrole et le gaz russe. Donc, il y a visiblement une attente et tout est connecté. Dans ce contexte-là, le Hezbollah a toutes les cartes en jeu quelque part, puisque rien ne se fera sans que, encore une fois, les droits souverains, l'exploitation gazière de la République du Liban soient respectés.
Merci encore, Maître Develle. Monsieur Michel, aujourd'hui, vous avez rappelé tout à l'heure, on assiste à un effondrement de la décennie intégrée que les États-Unis, le régime sioniste et certains pays de la région, en effet, tentent de mettre en place à une perte de suprématie aérienne de l'entité israélienne. Est-ce qu'aujourd'hui, l'équation de dissuasion ou cet équilibre de la terreur est entré, vous semble-t-il, dans une nouvelle phase?
Écoutez, c'est une révolution stratégique. Le temps des raids militaires et aériens contre le Liban et des raids aériens contre la Syrie est terminé visiblement. D'autant plus que les Russes maintenant n'ont plus aucune indulgence pour les provocations israéliennes. Mais il y a surtout des conséquences économiques. Le pillage des ressources gazières du Liban par les Israéliens s'est terminé et les projets de supplier le gaz russe par du gaz volé au Liban et fourni par Israël est en train de se terminer aussi. C'est un double échec, à la fois pour la stratégie israélienne, mais aussi pour la stratégie anti-russe des pays occidentaux. Voilà ce qu'il faut retenir dans l'affaire, évidemment. On est un peu revenu à la période de la dernière décennie de la guerre froide, où les Russes, les Soviétiques à l'époque, avaient établi la parité stratégique entre les Israéliens et la Syrie d'Hafez el-Assad, le père de Bachar el-Assad. Aujourd'hui, on est revenu à la même situation. Le Hezbollah, évidemment, mais également l'Iran avec son secteur balistique, a rétabli la parité stratégique au profit de l'axe de la résistance.
Merci encore, Monsieur Michel. Maître Develay, donc aujourd'hui, il y a d'une part, bien entendu, comme disait Monsieur Michel, cette parité stratégique. Il y a cet aspect militaire, sécuritaire, mais il y a aussi cet aspect économique, d'autant plus que le Liban, comme vous le savez, se trouve dans une situation économique difficile. Donc, l'exploitation des richesses naturelles du Liban est essentielle pour l'économie, pour, en effet, le redressement économique de ce pays. La question qui se pose, quelles seront les répercussions, justement, alors de l'opération du Hezbollah, de sa démonstration de force, de cette capacité opérationnelle sur les négociations qui se déroulent pour la délimitation des frontières maritimes du Liban et bien entendu qui permettra au Liban d'exploiter en effet ses richesses nationales.
Mais écoutez, de deux choses l'une, je pense que la comparaison faite par Luc Michel concernant la dernière décennie de la guerre froide et la parité stratégique entre les deux blocs avait mené à l'époque les responsables à s'asseoir autour d'une table et commencer à sérieusement discuter sur l'impasse dans laquelle ils se trouvaient et en quoi la sécurité internationale pouvait s'en trouver affectée. On peut penser que dans cette configuration actuelle, avec la dispute au Liban, dans les eaux maritimes du Liban, et la parité stratégique établie par la résistance libanaise dans ce dossier va pousser, pour peu qu'on ait affaire à des gens rationnels, les parties en présence à s'entendre sur un délimité des frontières maritimes qui soit satisfaisant politiquement et pour les uns et pour les autres. Mais il n'y a jamais aucune garantie. On peut aussi penser que les Israéliens, et on l'a vu quelque part avec la visite de Lapid à Paris, va essayer de forcer, si je puis dire, les choses et peut-être convaincre certains partenaires occidentaux, certainement aussi les Américains, puisque les Américains ont des intérêts dans l'exploitation de ce gaz au travers de leur société énergétique. Donc on peut penser que l'outil militaire va être opéré et tout dépend dans ce sens-là des capacités qu'a eu la résistance libanaise à garder secret les modes de livraison de son arsenal balistique, puisque l'on sait que depuis au moins 2 ans, si ce n'est plus, à la faveur du chaos économique engendré par l'effondrement de la Banque centrale libanaise, l'OTAN s'est investi énormément au Liban. Beaucoup d'instruments, de systèmes de surveillance électronique ont été mis en place. Et c'est un peu une course contre la montre qui a à voir avec l'objectif d'identifier où se trouvent, si je puis dire, les missiles du Hezbollah. Donc c'est ça derrière, en fait, je pense aussi l'élément qu'il faut garder à l'esprit.
Merci encore. Une toute dernière question à M. Michel. M. Michel, qu'est-ce qui va sortir des prochaines négociations entre le Liban et le régime d'occupation sous l'égide, bien entendu, des États-Unis concernant la délimitation des frontières maritimes? Est-ce qu'on pourrait s'attendre à ce que, justement, ces négociations puissent, d'une manière ou d'une autre, aboutir à un résultat dans l'intérêt du peuple libanais?
Écoutez, on va ramener les Israéliens à la raison. Le temps de l'arrogance et de la supériorité militaire n'existe plus, d'autant plus que le rallié de l'OTAN est également dans une mauvaise situation. Le Hezbollah a démontré que cette guerre si hybride qui avait été lancée au Liban en 2010, c'était la réponse parfaite aux armées occidentales. Et il y a la même caractéristique en Afrique où la Russie va d'une guerre hybride. et où elle démontre que les acteurs non étatiques là-bas, ce sont les paramilitaires, mais au Proche-Orient, ce sont les mouvements comme Ansarallah, le Hezbollah, etc. Ils montrent que les acteurs non étatiques, comme on les appelle, qui sont la caractéristique de la géopolitique du XXIe siècle, sont capables de rivaliser avec les armées nationales. Ça va ramener à la modestie, évidemment, les armées occidentales.
Merci infiniment, Monsieur Michel, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Je remercie également Maître Arnaud Develay, juriste international et analyste politique, d'avoir bien voulu participer à cette édition du débat. Merci beaucoup. Voilà, c'est la fin de cette émission. Avant de conclure cette émission, nos pensées profondes encore à la mémoire du défunt professeur d'Ortiguier, le grand ami de la révolution islamique et de la cause palestinienne. Merci à vous tous de nous avoir suivis jusqu'à la fin de cette émission. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Comment Paris aide l'armée ukrainienne avec ses armes? La France est devenue l'un des sponsors les plus actifs de l'armée ukrainienne dans le conflit actuel. Si dans l'absolu, son aide, à première vue, ne semble pas très importante, d'un point de vue qualitatif, les Français occupent des positions de leader. Cela est principalement dû à la livraison d'obusiers César automoteurs de 155 mm à l'Ukraine, qui ont une portée de tir allant jusqu'à 41 km. Cette capacité de tir rend ces canons comparables en portée aux canons automoteurs russes beaucoup plus lourds de 203 mm, de S7M Malka. Lutter contre ces systèmes de batterie est une tâche difficile. Les obusiers français, qui se trouvent entre les mains de l'armée ukrainienne, sont devenus une acquisition très précieuse qui est utilisée pour détruire des cibles particulièrement importantes à l'arrière du front. Des rapports ont d'ailleurs été effectués sur l'utilisation de ces systèmes pour bombarder les zones résidentielles de Donetsk. En plus des canons automoteurs César, les Français ont exporté vers l'Ukraine leur dernier missile anti-char MMR ATGM et les anciens systèmes anti-char Milan ont également été transférés. De manière générale, début juin, le volume de l'aide militaire française s'élevait à environ 100 millions d'euros. Paris ne compte pas s'arrêter là. Dans les prochains jours, les véhicules blindés de transport de troupes à roues, VAB, retirés du stockage, seront en Ukraine. Un convoi avec une quinzaine de ces véhicules de combat blindés a été vu en Slovaquie sur des camions de l'armée américaine. Ces blindés font partie de la nouvelle livraison de matériel déjà annoncée par l'Élysée, tout comme l'envoi de missiles anti-navires français exaucés. Une telle activité pose des questions. La coopération militaro-technique franco-ukrainienne dure depuis plus d'un an et jusque 24 février 2022, elle se développait déjà assez activement. Elle ne peut pas être qualifiée de très importante au regard des standards du commerce mondial des armes. Depuis 2015, la France a délivré au moins 76 licences d'exportation de matériel de guerre à la Russie, pour un montant de 152 millions d'euros. Ces exportations d'armement vers la Russie ont cependant considérablement baissé au fil des ans. De 80 millions d'euros en 2014, le montant des livraisons d'équipements est passé à 5,5 millions en 2018 et à seulement 300 000 euros en 2020, d'après le rapport du ministère des Armées remis chaque année aux parlementaires. Les ventes d'armes à l'Ukraine ont à l'inverse grimpé en flèche, passant de zéro en 2015 à 97 millions d'euros en 2020, précise Le Monde. Le principal moteur du rapprochement avec la France dans le domaine de la défense a été l'ancien ministre ukrainien de l'Intérieur, Arsène Avakov, qui est devenu le principal lobbyiste et directeur des entreprises de défense françaises en Ukraine. Avec sa participation directe en 2018, le premier contrat majeur a été signé pour la livraison de 55 hélicoptères fabriqués par Airbus Helicopters, dont 21 hélicoptères H-225, tous d'occasion, 24 H-125 de nouvelle production et de 10 nouveaux H-145 pour un total de 551 millions d'euros. Fin 2021, l'Ukraine a reçu 18 hélicoptères, dont 2 H-125, 6 H-145 et 10 H-225. Mais la coopération ne s'est pas arrêtée aux hélicoptères. Avec le lobbying actif d'Arsène Avakov, un accord a été conclu en 2020 pour l'envoi de 20 bateaux OCEA FPB 98 MKI d'une valeur de 136,5 millions d'euros pour être employés au service des gardes-frontières d'Ukraine. La société française OCEA, qui fabrique ces navires, a indiqué en 2019, pour un premier lancement, qu'elle a remporté la consultation internationale lancée par le ministère ukrainien de l'Intérieur. Malgré le limogeage d'Arsène Avakov en juillet dernier, les contrats conclus avec lui ont continué d'être exécutés, même si les Français ont commencé à perdre progressivement des positions qui ont été occupées par les États-Unis et le Royaume-Uni. Dans le même temps, Paris ne perdait pas l'espoir de se redresser grâce à des contrats aussi onéreux que la fourniture d'un satellite de télédétection terrestre et d'un lot d'avions de chasse Rafale. Mais la base commerciale de la coopération entre les deux pays a été noircie d'une croix dès le début du conflit en Ukraine. Malgré la très forte gesticulation d'Emmanuel Macron en faveur de l'Ukraine, le transfert d'armes vers Kiev a fini par déjà poser des questions en France même. Par exemple, les promesses du président français de livrer les obusiers César ont obligé d'en ponctionner à l'armée française, où il n'y en a que 75. Cela a aussi impacté le contrat d'exportation en cours avec le Maroc concernant 36 obusiers. Des questions similaires sont soulevées par la livraison d'ATGM et même R. Leur nombre exact est inconnu, mais l'armée française a acheté 1900 missiles pour ce complexe, dont 200 à 300 unités ont été utilisées lors d'exercices, de tests et pendant des opérations de combat en Afrique. Le transfert de quelques dizaines de ces missiles affecte la capacité de combat de la France elle-même et sa réputation comme fournisseur d'armes fiables. Un signe de l'épuisement des capacités de Paris a été le transfert de véhicules blindés de transport de troupes VAP déclassés. Cet engin n'appartient en aucun cas au type d'armes modernes. Ils sont peu susceptibles d'être demandés sur le marché étranger. Probablement, nous devrions continuer à nous attendre à la livraison de tels systèmes sans exclure le célèbre fusil automatique français FAMAS qui est maintenant remplacé par le NK-416F allemand. Ainsi, la France est un important fournisseur de l'Ukraine en ce qui concerne les systèmes d'armes qui sont les plus demandés. Artillerie longue portée, véhicules blindés. Cependant, la petite taille et les capacités relativement modestes de livraison d'armes déclassées ne devraient pas amener la France au premier rang des donateurs de l'OTAN.